Nous poursuivons notre série saison. Notre texte de base se trouve dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 13. Il dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. » Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans, tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. On a vu justement que à travers cette série-là, bon, les différentes saisons dans nos vies, les différentes saisons dans la vie, nos vies personnelles, dans nos vies de professionnelles, nos vies relationnelles, nos vies également spirituelles. Et c'est ce qu'on regarde un petit peu. On a vu le premier message qui était justement accepter qu'une saison se termine dans nos vies. La semaine dernière, il faut accueillir une nouvelle saison. Une fois que la saison est terminée, il faut être capable d'accueillir la nouvelle saison. Et ce matin, en fait, c'est résilience, savoir traverser une saison difficile. Parce que je connais personne qui, c'est l'été toujours dans sa vie. Ou c'est toujours le ciel bleu, le ciel clair. Il n'y a pas personne sur la surface de la terre que sa saison de sa vie, c'est extraordinaire. Même si les gens veulent prétendre, il y a des gens qui vont clamer haut et fort, il y a des gens qui vont faire des conférences comme « si tu fais telle chose, ta vie va être speak and span du début à la fin, tu vas avoir juste du beau. » C'est impossible. Alors, on traverse justement différentes saisons dans la vie, et si aujourd'hui, vous êtes dans une bonne saison dans votre vie, profitez-en, c'est ce que je peux vous dire. Profitez-en. Et en espérant que cette saison-là, parce que des fois, heureusement, les belles saisons perdurent plus longtemps qu'on le souhaiterait. Fait qu'on en profite, on en profite, on en profite. Mais malheureusement, des fois, il va arriver des saisons un petit peu de turbulence ou des saisons qui vont moins bien aller ou des saisons même très difficiles dans nos vies pour différentes raisons. Et à ce moment-là, c'est le moment de savoir justement traverser une saison difficile avec résilience. Et peut-être que là, présentement, ce matin, et les prochains dimanches dans la suite de cette série-là, je veux m'adresser à nous personnellement, à ce que vous pouvez vivre dans votre vie, mais également globalement au niveau de l'Église et de la nouvelle saison dans laquelle l'Église s'en va. Et peut-être pour vous, justement, bon, c'était un petit peu le choc de la nouvelle, là, il y a beaucoup de choses en même temps. Et des fois, justement, et ce matin, on va regarder quelques éléments, justement, que à travers une saison difficile, ce qu'il faut éviter, mettons, et peut-être ne pas faire. La première chose, c'est ne pas prendre la fuite. Parce que là, on va être honnête, là, c'est peut-être le moment pour vous de vous dire, OK, là, dans une couple de mois, nouveau pasteur, nouvelle vie, hey, c'est peut-être le moment de prendre la sortie de secours, puis me pousser, puis je vais changer d'église. Voulez-vous que je vous donne un conseil? Je vais vous le donner pareil. Il y a beaucoup de monde qui le veut, là. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas le bon moment. De dire, OK, ben, je vais en profiter, je vais quitter, pourquoi? Se pousser, pourquoi? Parce que des fois, honnêtement, c'est changer 4,30 sous pour une pièce, en bon québécois. Des fois, c'est juste changer de décor, pas vrai. Parce que qu'on le veuille ou non, au final, techniquement, une église chrétienne évangélique est supposée prêcher Jésus. Fait que, globalement, le fond de l'affaire, c'est pas mal la même affaire. Après ça, c'est du Pinterest un peu. On va changer de décor, on va changer des trucs, le niveau sonore, le ci, le ça, le plus dynamique, moins dynamique, plus calme, moins calme, peu importe. Et là, ça devient un truc de préférence. Mais de se poser la question, pourquoi je suis ici? C'est quoi la raison pour laquelle je suis ici ce matin? Pourquoi j'ai choisi, pourquoi Mosaïque est mon église? Parce que quand il arrive une situation difficile, la première réflexe, c'est de fuir. Quand ça va mal à ta job, peut-être que c'est le temps de commencer à checker les emplois puis de juste changer. Et dans notre vie, c'est ça. C'est facile de prendre la porte de sortie. Et comme j'ai mentionné il y a 2 semaines, pour moi, ça a été facile quand ça allait vraiment pas bien de dire, on va juste peser sur le bouton « eject », puis ça va être terminé là. Mais des fois, il faut savoir quand bien partir. Il faut savoir quand c'est le temps de rester également. Il faut savoir demeurer. Et on va voir un peu l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 10, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pour tous ceux qui pensent que vivre dans le moment des actes, la première église, c'était exceptionnel, extraordinaire, puis c'était le moment de vivre, mais l'apôtre Paul est en train de nous dire pas tant que ça. S'il était ici ce matin, il me dirait, toi, as-tu déjà été battu 40 coups moins 1? As-tu déjà fait de la prison? As-tu déjà fait de naufrage? As-tu subi la faim, la soif, la nudité? On t'a-tu kické out de ta ville? Peut-être pas. Lui, oui. Tout ça dans la même personne. Quand même pas pire. Et il va dire nos légères difficultés du moment présent. Ça remet en perspective certaines difficultés. On va se le dire, là. Mais lui, il dit nous ne perdons pas courage. Et le point important ici, justement, dans cet aspect-là de résilience, et si on vit une saison difficile dans nos vies présentement, c'est de regarder à ce qui est invisible et pas à ce qui est visible. On se retrouve dans une situation difficile, tout ce qu'on voit, c'est le visible. C'est la situation dans laquelle on est. C'est la problématique qu'on vit. C'est les difficultés qu'on vit. C'est les défis qu'on vit. C'est les problèmes, les persécutions qu'on peut vivre, ou peu importe ce qu'on peut vivre dans notre corps, dans notre vie, et de regarder à ce qui est visible et de ne pas regarder ce qui est invisible. 2 Corinthiens 5, 7, l'apôtre Paul va dire « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et ça, c'est toujours facile pour quelqu'un qui est dans une bonne saison de dire « Je marche par la foi. » Pas tant. Quand ça va bien, honnêtement, tu ne marches pas vraiment vers la foi quand ça va bien. Parce que ça va bien. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas de tempête. Il n'y a rien. Fait que là, tu dis, hey, oui. Puis là, c'est facile d'être confiant dans ta foi. C'est facile de clamer haut et fort toutes sortes de beaux versets ou de chanter plus fort que ton voisin d'à côté. Mais ce passage-là n'est pas pour ce moment-là. Ce passage-là est pour justement les moments où on vient de lire avec l'apôtre Paul. De dire, bien, quand je ne suis pas dans une bonne saison, quand je suis dans une saison difficile, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'apprenne à marcher par la foi. C'est là où tu ne vois pas. Peut-être que justement, les annonces des 2 dernières semaines vous ont déstabilisé et vous mettent dans une insécurité par rapport au futur. Mais ça, c'est le moment de marcher par la foi, les amis. Le moment de dire, bien, Dieu avait un plan, Dieu a un plan, et demain, bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et au lieu de prendre la fuite, bien, je vais continuer juste à marcher. Là, c'est le temps de marcher par la foi. Là, c'est le temps, là. C'est le temps de le faire. Et peut-être dans ta vie personnelle, tu vis justement une saison difficile, c'est le moment, là, de dire, j'ai des choix à faire, mais peut-être que mon choix, c'est de marcher par la foi et de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est l'autre bout du chemin? Parce que c'est ça. Basique, la foi, c'est ça. C'est de ne pas savoir et de ne pas comprendre. C'est le fun, hein? Tout ça, c'est rassurant. Mais c'est ça, la foi. Et souvent, ce qu'on pense que la foi, c'est de tout savoir, de tout comprendre, de tout expliquer et d'avoir cette oh, « oui, moi je sais ». Mais la foi, c'est tout sauf ça. La foi, c'est l'inconnu. La foi, c'est de ne pas savoir. La foi, c'est un mystère. Et la foi, c'est de faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, et qu'on pense qu'il tient notre vie dans le creux de sa main. C'est ça, la foi. Pas évident. Bob Goff a dit, « Je continue de mettre des choses dans le micro-ondes et Dieu continue de les remettre dans la mijoteuse. » C'est excellent. Peu importe ce qui vous distrait aujourd'hui, donnez-lui un peu plus de temps. Peu importe ce qui te distrait aujourd'hui, ce qui distrait ta foi aujourd'hui, ce qui t'amène justement, ce qui t'amène à considérer plus le visible que l'invisible, ce qui t'amène justement à trouver que ta saison n'est pas évidente, n'est pas facile, t'amène à voir que ce que tu vis, il n'y a personne qui peut le comprendre parce que toi tu le vis, puis pour les autres c'est facile de résoudre le problème, mais pas pour toi parce que tu as les deux pieds dedans, tu as les deux mains dedans. Et souvent, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est souvent ce qu'on pense, la loi de la facilité avec Dieu, avec la foi, c'est-à-dire de dire, on va mettre ça au micro-ondes. On est tous portés à faire ça. Et ce qu'on voudrait, c'est la solution magique. Je mets mon problème, ma difficulté, je mets ma saison difficile dans le micro-ondes. Hein? 2 minutes 47. Ça, c'est mon chiffre de micro-ondes, 2 minutes 47. Il y a beaucoup de choses qui se réchauffent à 2 minutes 47 dans ma vie. Vous allez savoir, essayez-le. 2 minutes 47, c'est quand même un pas pire, là. C'est juste température correcte, là. Pas trop chaud, tu ne veux pas te brûler. Puis, des fois, tu fais comme le fond est froid. Non, 2 minutes 47, c'est un bon timing. Mais on est porté à faire ça, à mettre ça dans le micro-ondes, puis dans le micro-ondes de Dieu, puis faire comme, OK, ça va aller vite, ça va se faire bien, ça va se faire facilement. Mais j'aime l'idée ici, donc, qui dit, quand je mets ça dans le micro-ondes, Dieu, lui, il reprend du micro-ondes, il ne met pas ça à 2 minutes 47, il le remet dans la mijoteuse. La mijoteuse, c'est le fun pareil, une mijoteuse. Tu mets ça le matin, elle arrive le soir, c'est cuit, c'est comme, waouh, j'ai rien fait. Tu as l'impression d'être un cook. Mais c'est slow, ça cuit lentement, doucement. Et la foi, c'est ça. C'est lentement, doucement. Ce n'est pas une réponse aussi facile, aussi simple, aussi rapide qu'on voudrait. Parce que Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Les gens pensent que la croissance spirituelle ou le passage dit, bien justement, pour arriver, il faut arriver à la stature parfaite de Christ, bien si je vais juste plus lire ma Bible, plus prier, aller plus à l'église, chanter plus fort, m'impliquer plus, donner plus, puis là, je vais arriver à la stature parfaite de Christ. Arriver à la stature parfaite de Christ, c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous mentionne. C'est quand tu fais face à la vie de tous les jours, mais tu as deux choix. Soit tu apprends à grandir ou à devenir plus immature. C'est ça le point. C'est dans ces moments-là, dans les saisons difficiles, que notre croissance personnelle, spirituelle, peut prendre le plus d'amplitude, dépendamment de comment on va l'aborder. Et c'est ça, marcher par la foi. Deuxièmement, faire face à nos déceptions, nos frustrations et nos souffrances. Parce qu'encore une fois, c'est lorsque ça ne va pas bien, lorsqu'on est déçu, peut-être que ce que vous vivez présentement, personnellement ou au niveau plus globalement de l'Église, vous avez des déceptions, des frustrations. Et là, c'est là où c'est facile de fuir ou de fuir la réalité ou de se cacher la tête dans le sang pour faire comme « Ouais, non, c'est pas si pire, ça va être correct, ça va aller. » Ça, c'est la pire affaire parce que quand on fait ça, bien, tôt ou tard, ça va refaire surface puis peut-être plus gros et plus difficile encore. Mais j'aime l'apôtre Paul, il fait pas semblant que ça va mieux que ça pourrait aller. Il nous dit, voici ce que je vis. Voici ce à quoi je suis confronté à tous les jours. C'est ça le réel, c'est ça ma vie. C'est pas juste les gens qui sont guéris, c'est pas juste les miracles, c'est pas juste les gens qui viennent à Jésus, c'est pas juste les nouvelles églises qui s'implantent. Moi, c'est ça que je vis personnellement dans ma vie. Et je suis obligé de dire, on ne perd pas courage, il faut que je m'accroche à Dieu, il faut que je continue à marcher par la foi, même si ce que je vois ne me plaît pas. Parce que ce matin, avec ce qu'on a lu dans Corinthiens, est-ce qu'il y a des gens qui auraient aimé ça, qui voudraient aujourd'hui changer de vie avec l'apôtre Paul? Moi, je vais être honnête, non, je ne voudrais pas. Mais l'apôtre Paul était assez honnête pour dire, bien, dans ces moments-là, je ne suis pas dans la meilleure saison de ma vie. Il faut que je trouve une façon de traverser à travers cette saison-là pour arriver à une meilleure saison plus loin. Parce que Dieu va avoir une meilleure saison pour moi demain, mais il faut qu'aujourd'hui j'apprenne à traverser cette saison-là et à faire face à mes déceptions, mes frustrations et mes souffrances. Le psaume 103, le verset 8 à 12, ça dit « L'Éternel fait grâce, il remplit de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Parce que quand on fait face justement à nos déceptions, nos frustrations, tout ça, il y a toujours les amis de Job qui arrivent justement avec le petit verset ou qui vont dire, ah ben, peut-être que tu n'as pas prié assez ou peut-être que tu manques de foi ou peut-être, ben, as-tu un péché dans ta vie? C'est peut-être ça qui cause ta situation, ta maladie ou ton défi ou ta problème dans ta vie parce que tu n'as pas assez Dieu dans ta vie. Ici, ce passage-là, là, il break tout ça. Terminé. Parce qu'ici, ça le dit. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Et juste mentionner que ce passage-là, là, c'est des centaines d'années avant que Jésus vienne sur la terre et qu'il meure sur la croix. Quand Dieu dit « Je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement », ce passage-là, c'est avant la croix. Et Dieu dit « Moi, je ne tiens pas rigueur à ça, c'est pas à cause de... Ce n'est pas une cause à effet toujours. On est dans un monde où on cherche justement la cause à effet, toujours. Mais si tu fais ça, il va arriver ça. Hein? La pensée magique, là. Si tu penses fort, 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 fort à ça, ça va arriver. C'est super positif, ça va bien aller. Si tu manques un peu de gratitude, ben là, tu te retrouves dans le trouble. Si tu n'es pas gentil avec un autre, ben c'est normal que l'autre ne soit pas gentil avec toi. Il y a tout le temps une cause, comme une cause à effet. On cherche, on veut trouver des solutions. Il faut qu'il y ait des causes à effet. Mais ici, la Bible dit que ce n'est pas comme ça. Des fois, il y a des choses qui arrivent parce qu'elles arrivent comme ça. Et ce n'est pas Dieu qui te met dans le trouble. Ce n'est pas Dieu qui te fait du tort. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens qui pensent que Dieu, il y a une genre de bibliothèque avec... Chacune des. Il y a toutes des poupées à notre effigie avec nos noms dessus. Puis de temps en temps, il en prend une, puis il prend des aiguilles. Aujourd'hui, ça me tentait que ce soit toi qui souffres. Un autre ici. Lui, il va être dans le trouble pendant, je ne sais pas. On le met sa bibliothèque, quand ça va me tenter, je retire les aiguilles. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'on est tous égaux. Tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu. Mais on peut tous être rachetés de façon égale. Et ici, c'est ça. Il dit, l'Éternel fait grâce, il remplit de compassion, il est lent à la colère, riche en bonté. Et j'aime ça, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Vous voulez comprendre? Et un autre texte va dire, mes pensées sont aussi loin que vos pensées. Essayez pas d'essayer de catcher tout ce que je fais puis tout ce que je fais pas. Vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable. Et quand on fait face, justement, à malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de souffrance. Dans les dernières semaines, plus j'ai fait mon annonce, je reçois des messages, et pas seulement des gens d'église, des gens de d'autres églises, des gens que je ne connais pas beaucoup, qui ont écouté le message et qui m'écrivent. Et ils m'écrivent des longs messages avec « voici ce que je vis » ou « voici ce que j'ai vécu dans les dernières années » ou « voici telle personne dans ma vie, qu'est-ce qu'elle a vécu. » Ils sentent à l'aise de me partager ça. Et malheureusement, dans ces messages-là, il y a des gens qui disent « Enfin, je me suis senti compris parce que je ne suis plus capable de parler de ma situation parce que les chrétiens autour de moi, ils ne comprennent pas puis ils font juste me rajouter un fardeau sur les épaules. Ils font juste rajouter par-dessus ma souffrance. » Et quand tu te fais rajouter par-dessus ta souffrance, tu commences à douter que Dieu est dans l'affaire, que Dieu est dans ta vie parce que là, les autres, eux, que leur vie... leur saison va bien, ils sont capables de dire pourquoi la tienne ne va pas bien. Et ils essayent de jouer à Dieu. Mais quand et après ça, c'est facile d'essayer de déconnecter de nos déceptions, de nos souffrances, et en plein, parce que là, il y en a trop. Et là, on est en train de se demander, est-ce que la porte de sortie, ce n'est pas quitter Dieu? Ce ne serait pas ça la solution de laisser Dieu? Laisser la foi, parce qu'on dirait que plus je m'approche de Dieu, plus ça ne va pas nécessairement bien. Puis les gens qui sont supposément spirituels me font sentir comme je suis encore moins spirituel et peut-être que Dieu ne m'aime pas. C'est épouvantable. Mais c'est là où il faut se rapprocher le plus de Dieu et écouter ce que Dieu a à dire. Pas ce que Pierre, Jean-Jacques, pense. Jonathan Merton a dit, c'est la peur qui nous fait choisir l'aveuglement, qui nous fait cacher notre tête dans le sable. La grâce est la seule chose qui nous donne assez de courage et de force pour vivre les yeux grands ouverts. Et souvent, c'est ça, c'est la peur. La peur qui fait qu'on ne veut pas voir la réalité, la peur qui fait qu'on ne veut pas voir nos blessures, nos frustrations, nos difficultés, on reste dans la peur. Et en fait, c'est la peur est une des choses qui a crucifié Jésus. Parce que la peur, c'est ce qui animait les chefs religieux à l'époque. Quand ils ont vu arriver Jésus dans le décor et qu'ils prêchent quelque chose qui est comme « Oh, c'est différent de notre religion », et notre religion nous fait en sorte qu'on a du pouvoir et du contrôle sur les gens, et lui, il est en train de faire basculer ça complètement. Mais la peur les a fait se raidir et dire, il faut avoir la peau de ce gars-là. Il est en train de nous faire perdre la face. Et encore plus que ça, la peur de eux-mêmes. Parce que Jésus a remis leur faute devant leur face et a dit aux chefs religieux, vous n'êtes pas aussi fins, aussi purs et aussi extraordinaires que vous le pensez. Vous aussi, hein, avec la femme adultère, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et on fait comme, ah non, on a été dévoilé. Et quand tu es dévoilé, ben, tu as peur. Et quand tu as peur, tu veux te cacher encore plus. Et quand tu as peur, tu veux encore plus trouver de justification pour ne pas te responsabiliser, pour ne pas te dire, et de trouver des coupables. Quand la peur arrive, il ne faut pas que tu sois dévoilé, mais tu vas trouver des coupables dans ta vie pour dire, ben, c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, ouais, mais je ne suis pas si coupable que ça. Et Dieu, c'est complètement le contraire. Il dit, fais juste reconnaître, s'il vous plaît. Fais juste affronter ce que tu vis présentement. Dis-le tes déceptions, dis-le tes frustrations. Et moi, je vais te faire grâce parce que je suis lent à la colère, riche en bonté. Mais la peur, c'est la pire de nos amis. Et c'est là où, quand on choisit la peur, on choisit l'aveuglement. Parce que c'est la peur qui nous fait cacher notre tête dans le sable. Éphésiens 4, les versets 1 à 3, ça dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et si je peux vous donner un passage à retenir et à méditer pour les prochains mois pour la situation de l'Église, c'est celui-là. Justement, au lieu de se pousser, au lieu de faire semblant que non, je ne suis pas déçu ou je suis pas, ou j'ai des inquiétudes face à l'inconnu, mais la raison de l'Église, c'est le contraire, c'est de dire de supportez-vous les uns les autres dans l'amour et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si vous avez quelque chose à travailler dans l'Église dans les prochains mois, je dirais c'est ça ici. On est là pour ça. Demain matin, là, on a un beau bâtiment, là, c'est un miracle dans lequel on a pu avoir ce bâtiment-là, tout ça, mais c'est juste de la brique, by the way. Et le COVID, le confinement, a bien prouvé quelque chose. Un bâtiment, c'est un bâtiment. De la brique, c'est de la brique. Et demain matin, le gouvernement pourrait décider de fermer toutes les églises dans la ville de Québec. Et c'est là qu'il faudrait se remettre en question pourquoi on est là. Et qu'est-ce que l'Église? C'est les gens qui sont autour de vous. Et c'est pour ça. Si vous venez juste pour le gars qui prêche en avant parce que vous préférez lui à l'autre qui est à l'autre adresse, puis à l'autre qui est à l'autre adresse, ou parce que c'est la louange qui vous convient le mieux, ou parce que, peu importe, il y a 50 raisons pour aller à l'église. On peut dans le magasin des églises. Et à Québec, il y a des choix, il y en a, de toutes les couleurs. Et de toutes les sortes. Il faut savoir la raison pour laquelle on est là. Et la raison pour laquelle demain, on va être encore là. Et cette raison-là, ce n'est pas de la brique. La raison-là, ce n'est pas parce que le gars en avant, il est plus attrayant qu'un autre. Cette raison-là, ce n'est pas parce que la louange me plaît plus qu'à une autre église. C'est pour les gens qui sont là autour de nous et la mission d'être là pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est pour ça. Bob Goff, encore une fois, a dit, « Trouve quelques personnes de confiance dans ta vie. Ils ne te diront pas quoi faire, ils vont te rappeler simplement qui tu es. Alors va et sois cette personne pour quelqu'un d'autre. Si nous sommes engagés à être la personne que Dieu a créée, notre vie va raconter une meilleure histoire que nos mots pourraient le faire. » Wow! Trouve des gens de confiance à qui tu vas partager tes déceptions. Partager et qui ne joueront pas aux amis de Job. Mais au lieu de te dire ce que tu n'as pas mis en application dans ta vie, puis c'est peut-être ta raison pour laquelle, ou le péché, bien, tu as peut-être un péché dans ta vie, c'est pour ça que tu es malade. Ils ne diront pas ça. Ils vont te dire, ils ne diront pas quoi faire. Ils vont tout simplement te rappeler qui tu es. La personne unique et extraordinaire que tu es, que Dieu a créée. Et toi, après ça, sois cette même personne-là pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'Église. Si nous sommes engagés à être la personne que Dieu a créée, notre vie va raconter une meilleure histoire que nos mots pourraient le faire. Parce souvent, on est bon avec les connaissances qu'on a sur Dieu, ou peu importe, notre expérience de foi. Mais avec le temps, si on fait juste être la personne que Dieu a créée, notre vie va raconter quelque chose. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à prêcher dans une retraite de pasteur. Et on m'a donné comme le verset de base, tout ça. Et pour moi, c'était clair dans ma tête que je voulais partager mon expérience de vie des deux dernières années. J'étais aussi franc avec eux que j'ai pu l'être avec vous il y a deux semaines. Et quand t'es un pasteur qui s'adresse à des pasteurs avec cette conversation-là, ça frappe aussi. Il y a des gens qui peuvent juste se dire « Oh, OK ». Parce que moi, je savais que chacune de ces personnes-là vit chacun de ses affaires, mais dans son petit cocon, puis tu n'entends pas parce que tu vas être honteux, puis tu as peur d'être du jugement, puis parce que tu vas te retrouver peut-être encore plus seul. Mais j'ai essayé de briser ce truc-là. Et après, il y a des pasteurs qui sont venus me voir, ainsi de suite, mais il y a un couple de pasteurs que je connais depuis longtemps, mais ça fait un bout que je ne les avais pas vus. Ils viennent me voir, puis me parlent du message, ça, puis me remercient, puis la femme, je pense, elle me dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai dit non. J'ai dit oui. Elle a dit, pendant que tu prêchais, puis là, tu t'es parlé, l'apôtre Paul, elle a dit, il y a quelque chose qui me venait en tête, puis j'ai fait comme, wow. Elle a dit, tu sais, l'apôtre Paul, lorsqu'il était sur la terre, il a implanté plein d'églises, il a fait des voyages missionnaires, puis tout ça. Mais aujourd'hui, ces églises-là, ils sont où? Ben, ils n'existent plus. C'est pas mal ça qui se passe. Il n'y a aucune de ces églises-là encore qui est en vie. Comme moi, ça fait très encourageant. Merci. Ça me donne du courage pour la suite. Mais elle dit, sais-tu quoi? Et là, ça vient rejoindre le passage de l'Éphésiens qu'on vient de lire. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Elle dit, l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison vers la fin de sa vie. Et pendant qu'il était en prison, c'est là qu'il écrit les lettres aux églises. Et aujourd'hui, ce qu'on a de l'apôtre Paul, ce n'est pas ses églises, c'est ses lettres. Mais il n'aurait probablement pas écrit ces lettres-là s'il ne s'était pas retrouvé en prison. Wow! Et des fois, dans nos vies, on se retrouve dans des situations, peut-être pas une bonne saison de notre vie, mais si, dans ce moment-là, Dieu voulait reprendre ça et faire quelque chose de beau avec, si notre vie pouvait raconter quelque chose pour la suite, qui va inspirer d'autres personnes, qui va faire une différence dans la vie des gens autour de nous. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dernièrement, s'attendre à Dieu, savoir que Dieu travaille pour nous, même lorsque nous ne le sentons pas. S'attendre à Dieu. Ça, c'est facile quand ça va bien. Quand ça va moins bien, quand on ne traverse pas une bonne saison, c'est difficile de s'attendre à Dieu. Et peut-être là, même avec les annonces, peut-être des gens qui ont été très ravis de l'annonce du nouveau pasteur, fait comme, ouais, demain, il y a un espoir, mais en même temps, il y a une incertitude. On ne sait pas, on ne connaît pas. Et c'est là où il faut s'attendre. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine saison? Qu'est-ce que Dieu, tu vas faire? Quand est-ce que tu vas sortir de cette zone-là d'inconfort, cette zone-là d'incertitude? Et c'est, il faut s'attendre à Dieu, puis de voir que, vous savez, dans les deux dernières années, vous ne saviez rien de ce qui se passait, mais il se passait quelque chose et Dieu était en train de travailler pour vous. Et souvent, lorsqu'on se retrouve personnellement dans une saison difficile, c'est difficile de s'attendre à Dieu. C'est difficile de voir que Dieu va être là demain. C'est difficile de voir que Dieu va faire une nouvelle saison qui est belle. Et ce passage-là, Ésaïe 40, 29, 31, qu'on connaît bien, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu dans ma vie ce passage-là, combien de fois j'ai prêché sur ce passage-là. Et cette semaine, ce passage-là revient. Et j'ai médité sur ce passage-là. Et j'ai dit, c'est beau de lire ça. C'est vrai. C'est un passage encourageant. Mais quand tu ne le vis pas, tu dis, Seigneur, c'est un beau passage. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans ma vie. Et peut-être aujourd'hui, vous souffrez dans votre corps. Vous vivez une situation difficile, pénible, qui perdure peut-être. Vous n'êtes pas dans la meilleure saison de votre vie, personnellement. Et de juste lire ce passage-là, ça ne provoque pas beaucoup de foi et beaucoup d'élan vers Dieu. Peut-être ce que ça provoque, c'est encore plus de frustration. Parce que vous regardez autour de vous, vous avez l'impression qu'il y en a qui prennent leur envol comme les aigles. Mais vous, votre sentiment, c'est que vous êtes un petit poussin. Ça ne vole pas haut. J'ai déjà vu les petits oisillons que la maman pousse en bas du nid. Il faut que tu apprennes à voler. Pas chier qu'à voir, là. Il y en a qui... C'était peut-être pas la journée. Il était peut-être pas prêt. Il y en a qui... Pouf! Crash, là. Il était pas prêt à voler, là. Et des fois, malheureusement, c'est ça. C'est que c'est bien beau, la Bible, c'est bien beau, tous les passages, mais il y a des moments où... Même tu arrives devant Dieu, tu pries, c'est le Seigneur. C'est écrit là, je le vois, je le lis. OK, à la limite, je comprends, mais je ne le vis pas. Là. C'est pas ça que je vis. Puis, c'est pas parce que j'ai des péchés dans ma vie. C'est pas parce que je me suis éloigné de toi. C'est pas parce que je manque de foi. C'est pas parce que je donne pas à l'Église. C'est pas parce que je m'implique pas. C'est pas parce que je ne vais pas à l'Église. C'est pas parce que je lis pas ma Bible. C'est pas parce que je prie pas. C'est pas parce que c'est juste comme ça. Et là, ça devient frustrant. Et peut-être c'est votre situation. Mais ne perdez pas courage. Comme l'apôtre a dit, ne perdons pas courage. Et apportons ce passage-là. Ce matin, si ce passage-là vous amène plus de frustration que de bénédiction, faites juste continuer de l'apporter à Dieu et faire comme, c'est ça qui est écrit, c'est pas ça que je vis. Ton problème, pas le mien. For real. Mais rendu là, tu fais toutes les bonnes affaires, tu fais tout, mais non, c'est pas ça qui se passe. Fait qu'à quelque part, je le ramène devant toi, puis là, ça serait le fun qu'à un moment donné, je n'ai pas besoin de voler comme un aigle. Un pigeon, c'est correct. On s'entend-tu pour le pigeon? Le moineau. Pas un oiseau-mouche, c'est fatigant à regarder. Là. Bon, je ne voudrais pas battre des ailes à cette vitesse-là. Wow! Mais en fait, si la Bible prend l'exemple d'un aigle, parce qu'un aigle, c'est sur les hauteurs, puis ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des aigles voler, mais il n'y a pas beaucoup de battements d'ailes comparativement à l'oiseau-mouche. Ça se laisse planer. Et ici, la suggestion, c'est que ça se laisse planer sur le vent du Saint-Esprit. Je vais terminer avec cette citation. Si tu te sens trop certain, tu vis probablement avec un faux sens de contrôle. Seulement les gens qui ne savent pas ce qu'ils font ou ne savent dans quelle direction leur vie va avec assurance sont ouverts à l'esprit et son vent. La marque de commerce de l'esprit est premièrement de déconcentrer, pas de clarifier. Dérangeant un petit peu, hein? Mais c'est le fun. Parce qu'en fait, c'est ça. Et quand tu regardes la Bible d'un couvert à l'autre, la majorité des gens ne savait pas trop ce qu'il faisait. Ou pas avec tant d'assurance. Et des fois, même la direction était comme un peu comme awkward. C'est comme, ouais, on s'en va là, puis là, ça change de bord. Et même pour l'apôtre Paul, l'analyse, quand on allait, il dit, je voulais m'en aller là, puis le Saint-Esprit nous a empêchés, puis là, on je voulais aller là faire, puis il dit, non, c'est pas là que tu vas non plus. Puis, pas tant de clarté plus que justement de confiance, de s'attendre à, de dire, bien, je vais me laisser porter pour voir où ça me mène, où le Saint-Esprit me mène. Parce que quand on sait trop, j'aime ça, c'est que quand il y a un sens de certitude, c'est ça où ça revient à la foi. Parce qu'on pense que la foi, c'est de tout savoir, de tout connaître et de tout contrôler. Et quand on arrive à ce point-là, Dieu se pousse. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as plus besoin de moi. Et c'est quand la direction semble moins claire, quand on est déconcentré par peut-être la situation qu'on vit dans notre vie, c'est peut-être le moment de laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre, diriger toutes choses, faire arriver et juste étendre nos ailes de poussin. Juste laisser le Saint-Esprit nous faire voler. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, dans cette saison de transition pour l'Église, Seigneur, qui peut amener certaines déceptions, de l'inconnu, peut-être même des frustrations, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous rassure. Savoir que même si on ne sait pas, toi, tu sais. Et c'est ça l'important. Que toi, tu as un plan, que toi, tu as un demain, que toi, tu as une nouvelle saison. Et de juste continuer à marcher par la foi, avec résilience. Et peut-être pour nos vies personnelles, tu sais qui vit quoi en ce moment, Seigneur. Et peut-être qu'il y a des personnes que... Il y a juste toi qui sais ce qu'ils vivent. Ils ne l'ont pas partagé à personne. Je prie que ce matin, Seigneur, il puisse avoir cet encouragement-là à ne pas te laisser tomber, mais à continuer à marcher par la foi. À garder un espoir, même s'il n'y a plus beaucoup d'espoir. À garder la foi là où il semble pas y avoir de miracle. Et à se laisser porter par ton esprit, même si on ne te sent pas. Sachant, Seigneur, que demain, il y a une meilleure saison pour chacun d'entre nous. Levons-nous ensemble, on termine avec ce chant.